Thé et tête ou de la science. Partie 4. Théodore. Socrate. Protagoras est mon ami. Tu viens de le dire toi-même. Je ne puis donc consentir ni à le voir réfuté ici par mes propres aveux, ni à le défendre vis-à-vis de toi contre ma pensée. Reprends donc la dispute avec Thé et tête, d'autant plus qu'il m'a paru t'écouter tout à l'heure fort attentivement. Socrate. Cependant, Théodore, si tu as l'aise à Lacédémone, au lieu d'exercice, après avoir vu les autres nus, et quelques-uns assez mal faits, prétendrais-tu être dispensé de quitter tes habits et de te montrer à ton tour? Théodore. Pourquoi non? S'il voulait me le permettre et se rendre à mes raisons. Comme j'espère ici vous persuader de me laisser simple spectateur, de ne pas me traîner de force dans l'arène, à présent que j'ai les membres roides, et ne pas me contraindre à lutter contre un adversaire plus jeune et plus souple. Socrate. Si cela te fait plaisir, Théodore, cela ne me fait nulle peine, comme on dit vulgairement. Revenons donc au sage Thé et tête. Dis-moi d'abord, Thé et tête, relativement à ce système, n'es-tu pas surpris comme moi de te voir ainsi tout d'un coup ne le céder en rien pour la sagesse à qui que ce soit, homme ou Dieu? Ou penses-tu que la mesure de Protagoras n'est pas la même pour les dieux et pour les hommes? Thé et tête. Non, certes, je ne le pense pas. Et pour répondre à ta question, je t'assure qu'en effet, je suis bien surpris. En t'entendant développer la manière dont il prouve que ce qui paraît à chacun est tel qu'il lui paraît, je jugeais que rien n'était mieux dit. Maintenant, je suis passé tout à coup à un jugement contraire. Socrate. Ah, tu es jeune, mon cher enfant, et par cette raison, tu écoutes les discours avec avidité et te rends de suite. Mais voici ce que nous répondrait Protagoras ou quelqu'un de ses partisans. Généreux enfant ou vieillard, vous discourez assis à votre aise et vous mettez ici les dieux de la partie, tandis que moi, dans ma conversation ou dans mes écrits, je laisse de côté s'ils existent ou n'existent pas. Vous me faites des objections bonnes, sans doute, auprès de la multitude, comme, par exemple, qu'il serait étrange que chaque homme n'eût aucun avantage du côté de la sagesse sur le premier animal. Mais vous ne m'opposez ni démonstration, ni preuve concluante, et n'employez contre moi que des vraisemblances. Cependant, si Théodore ou tout autre géomètre argumentait de la sorte en géométrie, personne ne daignerait l'écouter. Examinez donc, Théodore et vous, si, sur des matières de cette importance, vous vous contenterez d'apparence et de vraisemblance. Thé-tête. C'est ce qu'assurément nous n'oserions dire ni toi, Socrate, ni nous. Socrate. Ah, il faut donc, suivant ce que vous dites, Théodore et toi, nous y prendre d'une autre manière. Thé-tête. Sans doute. Socrate. Ainsi, voyons de la façon que je vais dire si la science et la sensation sont une même chose ou deux choses différentes. Car c'est là le but que nous poursuivons, et c'est à cette occasion que nous avons remué toutes ces questions si étranges. N'est-il pas vrai? Thé-tête. Oui. Socrate. Eh bien donc, admettrons-nous qu'avoir la sensation d'un objet, soit par la vue, soit par l'ouïe, c'est en avoir la science. Par exemple, avant d'avoir appris la langue des barbares, dirons-nous que, lorsqu'ils parlent, nous ne les entendons pas ou que nous les entendons et que nous savons ce qu'ils disent? De même, si, ne sachant pas lire, nous jetons les yeux sur des lettres, assurerons-nous que nous ne les voyons pas ou que nous les voyons et savons ce qu'elles signifient? Thé-tête. Nous dirons, Socrate, que nous savons ce que nous en voyons et en entendons. Quant aux lettres, que nous en voyons et en savons la figure et la couleur. Quant aux sons, que nous entendons et savons ce qu'ils ont d'aigu et de grave. Mais que tout ce qui s'apprend à ce sujet par les leçons des grammairiens et des interprètes, l'ouïe et la vue ne nous en donnent ni la sensation, ni la science. Socrate. Fort bien, mon cher Théétète. Il ne faut point te chicaner sur cette réponse, afin que tu prennes un peu d'assurance. Mais fais attention à une nouvelle difficulté qui s'avance, et vois comment nous la repousserons. Théétète. Quelle est-elle ? Socrate. La voici. Suppose qu'on nous demande s'il est possible que ce qu'on a su une fois, et dont on conserve le souvenir, on ne le sache pas, lors même qu'on s'en souvient. Mais je fais, ce me semble, un long circuit pour te demander si, quand on a appris une chose et qu'on s'en souvient, on ne la sait pas. Théétète. Comment ne la saurait-on pas, Socrate ? Ce serait un vrai prodige. Socrate. Ne suis-je pas moi-même en délire ? Examine bien. Ne conviens-tu pas que voir, c'est sentir ? Et que la vision est une sensation ? Théétète. Oui, Socrate. Celui qui a vu une chose, n'a-t-il point eu, dans ce moment, la science de ce qu'il a vu, selon le système que nous avons exposé tout à l'heure ? Théétète. Assurément. Socrate. Mais quoi ? N'admets-tu pas ce qu'on appelle mémoire ? Théétète. Oui. Socrate. A-t-elle un objet ou n'en a-t-elle point ? Théétète. Elle en a un. Socrate. Apparemment, que ce sont les choses qu'on a apprises et senties. Théétète. Et que serait-ce donc ? Socrate. Et ne se souvient-on pas, quelquefois, de ce qu'on a vu ? Théétète. Oui. Socrate. Même après avoir fermé les yeux. Ou bien, l'oublie-t-on sitôt qu'on les a fermés ? Théétète. Ce serait dire une absurdité, Socrate. Socrate. Il faut pourtant le dire, si nous voulons sauver le système en question, sans quoi c'est fait de lui. Théétète. Je l'entrevois, mais sans le concevoir clairement. Explique-moi comment. Socrate. Le voici. Celui qui voit, disons-nous, a la science de ce qu'il voit. Car nous sommes convenus que la vision, la sensation et la science sont la même chose. Théétète. Il est vrai. Socrate. Mais celui qui voit et qui a acquis la science de ce qu'il voyait, s'il ferme les yeux, se souvient de la chose et ne la voit plus, n'est-ce pas ? Théétète. Oui. Socrate. Dire qu'il ne voit pas, c'est dire qu'il ne sait pas, puisque voir est la même chose que savoir. Théétète. Cela est certain. Socrate. Il résulte de là par conséquent que ce qu'on a su, on ne le sait plus, lors même qu'on s'en souvient, par la raison qu'on ne le voit plus. Ce qui serait un prodige, avions-nous dit. Théétète. Rien de plus vrai. Socrate. Il paraît donc que le système qui confond la science et la sensation conduit à une chose impossible. Théétète. Il paraît. Socrate. Ainsi, il faut dire que l'une n'est pas l'autre. Théétète. Je commence à le croire. Socrate. Nous voilà donc réduits, ce semble, à donner une nouvelle définition de la science. Cependant, Théétète, qu'allons-nous faire ? Théétète. Sur quoi ? Socrate. Nous ne ressemblons pas mal, Théétète, à un coq sans courage. Nous nous retirons du combat. Et nous chantons avant d'avoir remporté la victoire. Théétète. Comment cela ? Socrate. Nous n'avons fait que disputer et nous accorder sur des mots. Et nous nous arrêtons comme enchantés de ce résultat. Tandis que nous nous donnons pour des sages, nous faisons, sans y prendre garde, ce que font les disputeurs de profession. Théétète. Je ne comprends pas encore ce que tu veux dire. Socrate. je vais essayer de t'expliquer là-dessus ma pensée. Nous avons demandé si celui qui a appris une chose, et en conserve le souvenir, ne la sait pas. Et après avoir montré que, quand on a vu une chose, et qu'on ferme ensuite les yeux, on s'en souvient quoi qu'on ne la voit plus, nous avons prouvé qu'il en résulte que le même homme ne sait pas ce dont il se souvient, ce qui est impossible. Voilà comme nous avons réfuté le système de Protagoras, et en même temps le tien, qui fait de la science et de la sensation une même chose. Tête, j'en conviens, Socrate. Il n'en serait pas ainsi, mon cher ami, si le père du premier système vivait encore. Il ne serait pas embarrassé pour le défendre. Aujourd'hui que ce système est orphelin, nous l'insultons. Les tuteurs que Protagoras lui a laissés, du nombre desquels est Théodore, refusent de prendre sa défense. Et je vois bien que, dans l'intérêt de la justice, nous serons obligés de venir nous-mêmes à son secours. Théodore. Ah, ce n'est pas moi, Socrate, qui suis le tuteur des opinions de Protagoras, mais plutôt Callias, fils d'Hipponicus. Pour moi, j'ai passé trop vite de ces abstractions à l'étude de la géométrie. Je te saurai gré pourtant, si tu veux bien le défendre. Socrate. C'est bien dit, Théodore. Examine donc de quelle manière je m'y prends. Car, si l'on est extrêmement attentif aux mots dont on a coutume de se servir, soit pour accorder, soit pour nier, on se verra forcé d'admettre des absurdités plus choquantes encore que celles de tout à l'heure. M'adresserai-je à toi ou à tes têtes ? Théodore. Adresse-toi à nous deux, mais que le plus jeune réponde. S'il fait quelques faux pas, il y aura moins de honte pour lui. Socrate. Je viens donc tout de suite à la question la plus étrange. La voici, je pense. Est-il possible que la même personne qui sait une chose ne sache point ce qu'elle sait? Théodore. Que répondrons-nous, Théétète? Théétète. Je trouve cela impossible. Socrate. Non pas, si tu supposes que voir, c'est savoir. Comment te tireras-tu en effet de cette question vraiment inextricable où, comme on dit, tu seras pris comme dans un puits, lorsqu'un adversaire imperturbable, fermant de la main un de tes yeux, te demandera si tu vois son habit de cet œil fermé? Tête. Je lui répondrai que non, mais que je le vois de l'autre. Socrate. Tu vois donc, et ne vois pas en même temps la même chose. Tête. Oui, à certains égards. Socrate. Il ne s'agit pas de cette restriction, répliquera-t-il, et je ne te demande pas le comment, je te demande seulement si ce que tu sais, il se trouve en même temps que tu ne le sais pas. Or, en ce moment, tu vois ce que tu ne vois pas. Tu es d'ailleurs convenu que voir, c'est savoir, et que ne pas voir, c'est ne point savoir. Conclus toi-même ce qu'il suit de là. Tête. Je conclus qu'il suit le contraire de ce que j'ai supposé. Socrate. Peut-être, mon cher, serais-tu tombé en bien d'autres embarras si, en outre, on t'eût demandé si on peut savoir la même chose d'une manière aiguë et d'une manière obtuse, de près et de loin, fortement et faiblement, et mille autres questions semblables que t'aurait proposé un champion exercé à la dispute, vivant de ce métier, et toujours à l'affût de pareilles subtilités, lorsqu'il t'aurait entendu dire que la science et la sensation sont la même chose, et si, te jetant sur ce qui regarde l'ouïe, l'odorat et les autres sens, et s'attachant à toi sans lâcher prise, il t'eût fait tomber dans les pièges de son admirable savoir, et que, devenu maître de ta personne, et te tenant enchaîné, il t'eût obligé à lui payer une rançon dont vous seriez convenus ensemble. Eh bien donc, me diras-tu peut-être, quelle raison Protagoras allégra-t-il pour sa défense? Veux-tu que je tâche de les exposer? Tête. Volontiers. Socrate. D'abord, il fera valoir tout ce que nous avons dit en sa faveur. Ensuite, venant lui-même à notre rencontre, il nous dira, je pense, d'un ton méprisant, « C'est donc ainsi que l'honnête homme Socrate m'a tourné en ridicule dans ses discours, sur ce qu'un enfant effrayé de la question qu'il lui a faite, s'il est possible que le même homme se souvienne d'une chose et en même temps n'en ait aucune connaissance, lui a répondu en tremblant que non, pour n'avoir pas la force de porter sa vue plus loin. Mais c'est une vraie lâcheté, Socrate, et voici ce qu'il en est à cet égard. Lorsque tu examines par manière d'interrogation quelqu'une de mes opinions, si celui que tu interrogeais battu en répondant ce que je répondrais moi-même, c'est moi qui suis confondu. Mais s'il dit autre chose, c'est lui qui est vaincu. Et pour entrer en matière, penses-tu qu'on t'accorde que l'on conserve la mémoire des choses que l'on a senties et que cette mémoire soit de même nature que la sensation qu'on éprouvait et que l'on n'éprouve plus? Il s'en faut de beaucoup. Penses-tu aussi qu'on hésite à soutenir que le même homme peut savoir et ne point savoir la même chose? Ou, si l'on redoute cette apparente contradiction, crois-tu qu'on t'accorde que celui qui est devenu différent soit le même qu'il était avant ce changement? Ou plutôt, que cet homme soit un et non pas plusieurs, et que ces plusieurs ne se multiplient pas à l'infini, puisque le changement se fait sans cesse? Si l'on veut de part et d'autre mettre de tous côtés toute chicane verbale. Mon cher, poursuivra-t-il, attaque mon système d'une manière plus noble. Éprouve-moi, si tu le peux, que chacun de nous n'a pas des sensations qui lui sont propres, ou, si elles le sont, qu'il ne s'ensuit pas que ce qui paraît à chacun devient, ou, s'il faut se servir du mot être, est tel pour lui seul. Au surplus, quand tu parles de pourceau et de cynocéphale, non seulement tu montres toi-même à l'égard de mes écrits la stupidité d'un pourceau, mais tu engages ceux qui t'écoutent à en faire autant. Et cela n'est guère bien. Pour moi, je soutiens que la vérité est telle que je l'ai décrite, et que chacun de nous est la mesure de ce qui est et de ce qui n'est pas. Que cependant, il y a une différence infinie entre un homme et un autre homme, en ce que les choses sont et paraissent autres à celui-ci et autres à celui-là. Et bien loin de ne reconnaître ni sagesse, ni homme sage. Je dis au contraire qu'on est sage lorsque, changeant la face des objets, on les fait paraître et être bons à celui auquel il paraissait et était mauvais auparavant. Du reste, ne va pas de nouveau m'attaquer sur les mots, mais conçois encore plus clairement ma pensée de cette manière. Rappelle-toi ce qui a été dit précédemment, que les aliments paraissent et sont amers aux malades, et qu'ils sont et paraissent agréables à l'homme en santé. Il n'en faut pas conclure que l'un est plus sage que l'autre, car cela ne peut pas être. Ni s'attacher à prouver que le malade est un ignorant, parce qu'il est dans cette opinion, et que l'homme en santé est sage, parce qu'il est dans une opinion contraire. Mais il faut faire passer le malade à l'autre état, qui est préférable au sien. De même, en ce qui concerne l'éducation, on doit faire passer les hommes du mauvais état au bon. Le médecin emploie pour cela les remèdes, et le sophiste les discours. Jamais en effet, personne n'a fait avoir des opinions vraies à quelqu'un qui en eut auparavant de fausses, puisqu'il n'est pas possible d'avoir une opinion sur ce qui n'est pas, ni sur d'autres objets que ceux qui nous affectent, et que ces objets sont toujours vrais. Mais on fait en sorte, ce me semble, que celui qui, avec une âme mal disposée, avait des opinions relatives à sa disposition, passe à un meilleur état et à des opinions conformes à cet état nouveau. Quelques-uns, par ignorance, appellent ces opinions des images vraies. Quant à moi, je conviens que les unes sont meilleures que les autres, mais non pas plus vraies. Et il s'en faut bien, mon cher Socrate, que j'appelle les sages des grenouilles. Au contraire, je tiens les médecins pour sages, en ce qui concerne le corps, et les laboureurs, en ce qui concerne les plantes. Car selon moi, les laboureurs, lorsque les plantes sont malades, au lieu de sensations mauvaises, leur en procurent de bonnes, de salutaires et de vraies. Et les orateurs sages et vertueux font que, pour les citer, les bonnes choses soient juste à la place des mauvaises. En effet, ce qui paraît juste et honnête à chaque cité est tel pour elle, tandis qu'elle emporte ce jugement. Et le sage fait que le bien soit et paraisse tel à chaque citoyen au lieu du mal. Par la même raison, le sophiste capable de former ainsi ses élèves est sage et mérite de leur part un grand salaire. C'est ainsi que les uns sont plus sages que les autres, et que néanmoins personne n'a d'opinion fausse, et bon gré, mal gré, il faut que tu reconnaisses que tu es la mesure de toute chose. Car tout ce qui vient d'être dit suppose ce principe. Si tu as quelque chose à lui opposer, fais-le en réfutant mon discours par un autre. Ou, si tu aimes mieux interroger, à la bonne heure, interroge. Car je ne dis pas qu'il faille rejeter cette méthode. Au contraire, l'homme de bon sens doit la préférer à tout autre. Mais use-en de la manière suivante. Ne cherche point à tromper en interrogeant. Il y aurait une grande contradiction à te porter pour amateur de la vertu et à te conduire toujours injustement dans la conversation. Or, c'est se conduire injustement en conversation que de ne mettre nulle différence entre la dispute et la discussion. De ne pas réserver pour la dispute les badinages et la tromperie, et dans la discussion, de ne pas traiter les matières sérieusement, redressant celui avec qui on converse et lui faisant uniquement apercevoir les fautes qu'il aurait reconnues de lui-même et à la suite d'entretiens antérieurs. Si tu agis de la sorte, ceux qui converseront avec toi s'en prendront à eux et non à toi de leurs troubles et de leur embarras. Ils te rechercheront et t'aimeront. Ils se prendront en aversion et, se fuyant eux-mêmes, ils se jetteront dans le sein de la philosophie pour qu'elle les renouvelle et en fasse d'autres hommes. Mais si tu fais le contraire, comme font la plupart, le contraire aussi t'arrivera. Et au lieu de rendre philosophes ceux qui te fréquentent, tu leur feras haïr la philosophie lorsqu'ils seront plus avancés en âge. Si tu m'en crois donc, tu examineras véritablement, sans esprit d'hostilité et de dispute, comme j'ai déjà dit, mais avec une disposition bienveillante, ce que nous avons voulu dire en affirmant que tout est en mouvement et que les choses sont telles pour les particuliers et les États qu'elles leur paraissent. Et tu partiras de là pour examiner si la science et la sensation sont une même chose ou deux choses différentes, au lieu de partir, comme tout à l'heure, de l'usage ordinaire des mots, dont la plupart des hommes détournent le sens arbitrairement, se créant par là mutuellement toutes sortes d'embarras. Voilà, Théodore, l'essai de ce que je puis pour la défense de ton ami. Cette défense est faible et répond à ma faiblesse. Mais s'il vivait encore, il viendrait lui-même à son secours avec tout autrement de force. Théodore. Tu te moques, Socrate. Tu l'as défendu très vaillamment. Socrate. Ah, tu me flattes, mon cher ami. Mais as-tu pris garde à ce que Protagoras disait tout à l'heure et aux reproches qu'il nous faisait de disputer contre un enfant, de la timidité duquel nous nous servions comme d'une arme pour combattre son système, et comment, traitant cette conduite de badinage et vantant sa mesure de toute chose, il nous recommandait d'examiner son sentiment d'une manière plus sérieuse. Théodore. Ah, comment ne l'aurais-je pas remarqué, Socrate ?
Socrate.
Eh bien, veux-tu que nous lui obéissions ?
Théodore.
De tout mon cœur.
Socrate.
Tu vois que tous ceux qui sont ici, excepté toi, ne sont que des enfants. Si donc, nous voulons obéir à Protagoras, il faut qu'interrogeant et répondant tour à tour, toi et moi, nous fassions un examen sérieux de son opinion, afin qu'il n'ait plus à nous reprocher de l'avoir discuté en badinant avec des enfants.
Théodore.
Quoi donc ? Théétète n'est-il pas plus en état de suivre cette discussion que beaucoup d'autres qui ont de grandes barbes ?
Socrate.
Oui, mais pas mieux que toi, Théodore. Ne te figure pas que j'ai dû prendre en toute manière la défense de ton ami après sa mort et que tu sois en droit de l'abandonner. Allons, mon cher, suis-moi un peu, jusqu'à ce que nous ayons vu si c'est toi qui dois servir de mesure, en fait de figure géométrique, ou si chaque homme peut l'être tout aussi bien pour lui-même dans l'astronomie et les autres sciences où tu as la réputation d'exceller.
Théodore.
Il n'est pas aisé, Socrate, lorsqu'on est assis auprès de toi, de se défendre de te faire raison. Et je me trompais bien tout à l'heure quand je disais que tu me permettrais de ne point mettre bas mes habits, et que tu n'userais point de contrainte à cet égard, comme font les lacédémoniens. Il me paraît au contraire que tu ressembles davantage à Cyron, car les lacédémoniens disent qu'on se retire ou qu'on quitte ses vêtements. Mais toi, tu fais plutôt commenter. Tu ne lâches point ceux qui t'approchent, que tu ne les aies forcés de se dépouiller et de lutter de parole avec toi.
Socrate.
Tu as très bien dépeint ma maladie, Théodore. Seulement, je suis beaucoup plus fort que ceux dont tu parles, car j'ai déjà rencontré une foule d'Hercule et de Thésée redoutables dans la dispute, qui m'ont bien battu. Mais je ne m'abstiens pas pour cela de disputer, tant est violent et enraciné en moi l'amour que j'ai pour cette espèce de lutte. Ne me refuse donc pas le plaisir de me mesurer avec toi,
Théodore.
Oh, je ne m'y oppose plus. Mène-moi par quel chemin tu voudras. Je vois bien qu'il faut subir la destinée que tu me prépares et consentir de bonne grâce à se voir réfuté. Je t'avertis pourtant que je ne pourrais pas me livrer à toi au-delà de ce que tu m'as demandé.
Socrate.
Il suffit que tu me suives jusque-là. Et je te prie, sois attentif à ce qu'il ne nous arrive point sans le savoir, de converser ensemble d'une manière puérile. Ce qu'on ne manquerait pas de nous reprocher de nouveau.
Théodore.
J'y prendrai garde autant que j'en suis capable.
Socrate.
Commençons donc par reprendre ce que nous disions précédemment. Et voyons, si c'est avec raison ou à tort, que nous avons attaqué et rejeté le système de Protagoras, en ce qu'il prétend que chacun se suffit à soi-même en fait de sagesse. Et si Protagoras nous a accordé que quelques-uns l'emportent sur d'autres dans le discernement du mieux et du pis. Et ce sont là les sages, selon lui. N'est-ce pas cela ?
Théodore.
Oui.
Socrate.
S'il nous avait fait cet aveu lui-même en personne, et que nous ne l'eussions pas fait pour lui, en défendant sa cause, il ne serait pas nécessaire d'y revenir pour le fortifier davantage. Mais maintenant, on pourrait peut-être nous objecter que nous ne sommes point autorisés à faire de pareils aveux de sa part. C'est pourquoi il vaut mieux que nous nous entendions plus nettement sur ce point. Car il n'est pas peu important que la chose soit ainsi ou autrement.
Théodore.
Tu as raison.
Socrate.
Tirons donc aussi brièvement qu'il se pourra cet aveu, non d'aucune autre personne, mais des propres discours de Protagoras.
Théodore.
Comment cela ?
Socrate.
le voici. Ne dit-il point que ce qui paraît à chacun est pour lui tel qu'il lui paraît ?
Théodore, il le dit en effet.
Socrate. Or, Protagoras, nous énonçons aussi les opinions d'un homme, ou plutôt de tous les hommes, quand nous disons qu'il n'est personne qui, à certains égards, ne se croit plus sage que d'autres, et d'autres pareillement plus sages que celui-là, que, dans les plus grands dangers, à la guerre, dans les maladies, sur la mer, on se conduit envers ceux qui commandent comme envers des dieux, et l'on attend d'eux son salut, sans que ceci ait aucune autre supériorité que celle de la science. Que toutes les affaires humaines sont remplies de gens qui cherchent des maîtres et des chefs pour eux-mêmes, pour les autres, et pour toute entreprise. Et d'autres, au contraire, qui sont persuadés qu'ils sont en état d'enseigner et de commander. Que pouvons-nous en conclure autre chose, sinon que les hommes eux-mêmes pensent que sur tout cela, il y a parmi leurs semblables des sages et des ignorants.
Théodore. Rien autre chose.
Socrate. Or, ne tiennent-ils point la sagesse pour une opinion vraie et l'ignorance pour une opinion fausse ?
Théodore.
Sans contredit.
Socrate.
Quel parti prendrons-nous donc, Protagoras ? Dirons-nous que les hommes ont toujours des opinions vraies ? Ou tantôt de vrai et tantôt de fausse. De quelque côté qu'on se tourne, il résulte également que les opinions humaines ne sont pas toujours vraies, mais vraies ou fausses.
En effet, Théodore,
vois si quelqu'un des partisans de Protagoras, ou si toi-même tu veux soutenir que personne ne pense d'aucun autre que c'est un ignorant et qu'il a des opinions fausses.
Théodore.
Qui voudrait s'en charger, Socrate ?
Socrate.
Voilà cependant à quelle extrémité sont réduits ceux qui veulent que l'homme soit la mesure de toute chose.
Théodore.
Comment cela ?
Socrate.
Lorsqu'ayant porté quelque jugement en toi-même, tu me fais part de ton opinion sur un point, selon Protagoras. Cette opinion sera vraie pour toi. Mais ne nous est-il pas permis, à nous autres, d'être juge de ton jugement. Et jugeons-nous toujours que tes opinions sont vraies ? Ou plutôt, une infinité de gens qui ont des opinions contraires aux tiennes ne te contredisent-ils pas tous les jours dans la persuasion que tu te trompes ?
Théodore.
Oui, par Jupiter, Socrate, il y a, comme dit Homère, 1000 personnes qui me tourmentent à ce sujet.
Socrate.
Quoi ? Veux-tu que nous disions qu'alors ton opinion est vraie pour toi et fausse pour 1000 personnes ?
Théodore.
C'est une nécessité à ce qu'il paraît dans le système de Protagoras.
Socrate.
Et pour lui-même, s'il n'avait pas pensé que l'homme est la mesure de toute chose et que le peuple ne le pensa pas non plus, comme en effet il ne le pense pas, ne serait-ce pas une nécessité que la vérité telle qu'il l'a définie n'exista pour personne ? Et s'il a été de ce sentiment, et que la multitude pense le contraire, tu vois d'abord qu'autant le nombre de ceux qui ne sont pas de son avis surpasse celui de ses partisans, autant la vérité telle qu'il l'entend a plus de chances pour n'exister pas que pour exister.
Théodore.
Cela est incontestable, si elle existe ou n'existe pas, selon chaque opinion.
Socrate.
Mais, en second lieu, voici ce qu'il y a de plus plaisant. Protagoras, en reconnaissant que ce qui paraît tel à chacun est, accorde que l'opinion de ceux qui contredisent la sienne, et par laquelle il croit qu'il se trompe, est vraie.
Théodore.
En effet,
Socrate,
ne convient-il donc pas que son opinion est fausse, s'il reconnaît pour vrai l'opinion de ceux qui pensent qu'il est dans l'erreur ?
Théodore.
Nécessairement,
Socrate.
Et les autres ne conviennent pas qu'il se trompe ?
Théodore.
Non, vraiment.
Socrate.
Eh bien, le voilà qui reconnaît aussi cette opinion pour véritable d'après son système.
Théodore. Il le faut bien.
Socrate.
Par conséquent, c'est une chose révoquée en doute par tous, à commencer par Protagoras lui-même. Ou plutôt lui-même à vous, en admettant que celui qui est d'un avis contraire au sien pense vrai.
Oui,
Protagoras accorde que ni un chien, ni le premier homme venu, n'est la mesure d'aucune chose qu'il n'a point étudiée. N'est-ce pas ?
Théodore.
Oui.
Socrate.
Donc, puisqu'elle est contestée par tout le monde, la vérité de Protagoras n'est vraie ni pour personne, ni pour lui-même.
Théodore.
Socrate, nous maltraitons bien mon ami.
Socrate.
Oui, mon cher, et je ne sais trop si c'est à bon droit, car il y a apparence qu'étant plus âgé que nous, il est aussi plus habile.
Et si, à ce moment, il sortait de terre seulement jusqu'au cou, il est probable qu'avant de rentrer sous terre et de disparaître, il nous convaincrait, moi, de ne savoir ce que je dis, et toi, d'avoir accordé bien des choses mal à propos.
Mais c'est une nécessité pour nous, je pense, d'user de nos lumières telles qu'elles sont et de parler toujours conformément à nos idées.
Et maintenant, pouvons-nous ne pas dire que tout le monde convient que tel homme est plus savant qu'un autre et tel autre aussi plus ignorant.
Théodore.
Il me le paraît, du moins.
Socrate.
Dirons-nous aussi qu'elle puisse se soutenir cette partie du discours que nous avons mis dans la bouche de Protagoras en prenant sa défense, savoir qu'en ce qui concerne le chaud, le sec, le doux et les autres qualités de ce genre, les choses sont communément telles pour chacun qu'elles lui paraissent.
Que, s'il reconnaît qu'à certains égards, il est des hommes qui l'emportent sur d'autres,
c'est par rapport à ce qui est salutaire ou nuisible au corps, et qu'il ne fera nulle difficulté de convenir que toute femmelette, tout enfant, tout animal n'est point en état de se guérir soi-même et ne connaît pas ce qui lui est salutaire. Mais que ce sont là, particulièrement, les choses où certains hommes ont l'avantage sur d'autres.
Théodore,
je le crois ainsi.